France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité par Anne Fauquemberg.
Bonjour. Aux Pays-Bas, le vote d'hier pour les élections européennes semble avoir déjoué les pronostics. Selon les sondages sortis des urnes, le parti travailliste néerlandais aurait remporté le scrutin. Emmené par le commissaire européen Frans Timmermans, il domine largement les nationalistes du Forum pour la démocratie de Thierry Baudet et les libéraux du Premier ministre Mark Rutte. En plein milieu de ce scrutin européen, une nouvelle grève pour le climat est organisée aujourd'hui partout dans le monde à l'appel du mouvement international de jeunes Youth for Climate à Paris. Le cortège partira à 13h de la place de l'Opéra. 85 associations et syndicats ont rejoint les jeunes. En Inde, le Premier ministre Narendra Modi a remporté hier une victoire écrasante à l'occasion des législatives. Le BJP, le Parti du Peuple Indien, Parti Nationaliste Hindou, obtient la majorité absolue à la Chambre basse du Parlement qui réunit 543 députés élus pour 5 ans. Donald Trump rencontrera bien Xi Jinping fin juin à Osaka à l'occasion du G20. Le président américain assure ne pas avoir perdu l'espoir de parvenir à un accord commercial avec la Chine. Il est d'ailleurs possible que Huawei, l'entreprise chinoise accusée de menacer la sécurité des États-Unis, soit finalement inclus dans le futur accord. Aux États-Unis toujours, la justice inculpe le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, de 17 nouvelles inculpations. Les États-Unis reprochent aux lanceurs d'alerte australiens d'avoir mis en danger certaines de leurs sources en 2010 lorsque Wikileaks a rendu public quantité de documents militaires et diplomatiques. Julian Assange est aussi soupçonné d'avoir comploté avec l'ex-analyste militaire Chelsea Manning à l'origine de cette fuite sans précédent. En France, la société Rally, maison mère du groupe Casino, a été placée en procédure de sauvegarde pour une période de 6 mois renouvelable 2 fois. Les filiales opérationnelles Casino et Gosport ne sont pas concernées par ces procédures. Et puis, l'intersyndicale de General Electric à Belfort a fustigé hier l'ignorance du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui a déclaré qu'il n'y a pas de débouché pour les turbines à gaz produites sur le site. Selon les syndicats, ce marché est au contraire en expansion. Une intersyndicale qui, par ailleurs, va déposer plainte aujourd'hui contre la direction de l'entreprise, une plainte qui alerte sur les risques psychosociaux concernant les 4000 salariés confrontés à une restructuration d'ampleur annoncée depuis des mois.
La maîtrise de Radio France s'associe à la maîtrise Notre-Dame de Paris pour un concert exceptionnel. Cette soirée, initialement prévue dans la cathédrale, sera donnée le mardi 4 juin à 20h à l'auditorium de Radio France. Elgar, Purcell, Pipette, Handel. Un voyage en terre anglaise avec Yves Castagnier à l'orgue, Sophie Janin et Henri Chalet à la direction. Entrez au cœur du concert. Renseignements et réservations, maisondelaradio.fr.
6h03 sur France Culture, le réveil culturel, c'est avec vous Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de vous réveiller avec nous, avec le réveil culturel. Si vous nous écoutez en direct à la radio, sinon, vous le savez, il y a l'option de la réécoute en ligne ou de l'abonnement au podcast disponible sur franceculture.fr. Tous les vendredis, c'est l'actualité de la bande dessinée. Mais aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un auteur plutôt très rare, Kamel Khelif. Auteur donc de bande dessinée, qui vit à Marseille, très coté dans quelques galeries londoniennes ou américaines, parce qu'il est par ailleurs dessinateur et peintre, mais assez peu connu, il faut le dire, ici en France. Il vient de sortir une bande dessinée aux éditions Otium, qui a pour titre « Et même si c'est la nuit », une déambulation dans une ville qu'on reconnaît très vite quand on connaît Marseille, même si elle n'est jamais nommée, une déambulation très mélancolique et une déambulation nocturne jusqu'au bout de la nuit. Kamel Khelif, l'invité du Réveil culturel ce matin.
Le Réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Même si c'est la nuit. Étrange titre. Très beau titre, mais bizarre. C'est le titre de votre dernière bande dessinée qui sort chez Otium Éditeur. Kamel Khelif, bonjour.
Bonjour Toufik Hakem.
C'est une déambulation. Un homme traverse de nuit sa ville. Et donc c'est la traversée d'une ville, c'est la traversée d'une nuit. Cet homme est marseillais. Jamais le nom de la ville n'est cité, mais celles et ceux qui habitent la cité phocéenne vont tout de suite s'y retrouver puisque le nom des rues est exact. Qui est cet homme qui quitte son appartement et qui décide d'aller dans le quartier arabe et central de Marseille, c'est-à-dire Belzunce? Cet homme, il est poursuivi par des souvenirs, il voit des choses réelles, mais d'autres qui le sont beaucoup moins. Dans quel état il est cet homme et pourquoi cette déambulation nocturne?
Étrange expérience que la réalisation de ce livre. D'abord parce qu'elle renvoie à mon premier livre « Homicide » qui a été publié en 1995 et qu'on retrouve les mêmes similitudes. Un homme qui quitte son appartement et qui va traverser la nuit. Et on retrouve aussi d'autres éléments comme le cabaret clandestin, la musique présente, les rues de Marseille et qui à la fin donc revient à son domicile. Cet homme c'est un artiste donc un solitaire aussi, ne pouvant plus dessiner, il va quitter son appartement et traverser diverses situations, rencontrer divers personnages, mais un peu comme s'il était témoin de tout ça, et pour faire du lien avec toutes ces situations très différentes.
Et il est poursuivi aussi par ses propres souvenirs.
Il est poursuivi par ses propres souvenirs, mais les souvenirs, je m'en sers un peu comme des éléments autobiographiques qui me servent un peu de levier auquel j'y greffe des choses que j'invente. La réalité est l'étrange expérience, parce que la réalité dessinée, la réalité vécue, durant ces deux années, il n'y avait absolument aucune différence. Dès l'écriture du texte en novembre 2016, qui a duré à peu près 4 mois, et j'avais envie de faire un livre. Il y avait longtemps que je n'en avais pas fait un. Un livre un peu comme une lettre qu'on envoie à des amis, et bien sûr dont on n'attend aucun retour. Très rare les retours.
Cet homme, c'est vous? C'est une bande dessinée introspective, même si c'est la nuit, pour reprendre le titre?
Oui, je voulais quelque chose qui aille de ce côté-là, c'est-à-dire de plutôt singulier, à partir d'éléments personnels, autobiographiques.
Comme vous, cet homme a quitté son pays d'origine, si tant est qu'on puisse appeler cela un pays d'origine, puisqu'il a si peu connu l'Algérie et Alger, qu'il quitte en 1964 alors qu'il a 5 ans. Ça fait donc près de 55 ans qu'il vit dans cette ville, Marseille. Mais cette ville d'ailleurs n'est jamais nommée dans votre récit, dans votre bande dessinée. Le personnage non plus n'a pas de nom.
Non, il n'a pas de nom, la ville n'est pas nommée, elle est montrée. Peut-être à cause du manque de distance avec cette ville qui fait partie complètement de lui, d'où la difficulté de la nommer.
Diriez-vous la même chose pour ce qui vous concerne? Parce que vous parlez de vous dans cette bande dessinée, que vous avez du mal à nommer le personnage qui déambule du début jusqu'à la fin de cette histoire?
Sans doute. Et puis on est toujours nommé par les autres. Pareil qu'on peut apprendre son propre nom. Je crois que c'est dans la Bible où on dit tu connais le nom qu'on t'a donné, mais tu connais pas ton véritable nom. Peut-être à cause de ce manque de distance avec moi-même, ou avec, non, surtout avec la ville, la difficulté de la nommer. Mais c'est aussi pour dire que ça pourrait être n'importe quelle ville du bord de mer, dans laquelle d'autres gens pourraient se reconnaître.
Cette histoire se passe en hiver. C'est très étrange. Généralement, Marseille, la ville de Marseille, l'imagerie de Marseille est associée au soleil, à la mer. Et là, on est dans une ville balayée par le froid. Seuls quelques marginaux, quelques pauvres, défient le froid et sortent la nuit. C'est ces personnages qu'on va rencontrer à travers le narrateur, celui qui décide justement de faire cette grande déambulation dans la ville la nuit.
Oui, d'un bout à l'autre de la nuit. Ça se passe l'hiver parce que tout simplement j'ai commencé à écrire ce texte en novembre 2016 Et j'avais tout simplement envie de raconter une histoire singulière, poétique, qui se situe un peu sur un autre terrain que celui de la réalité, mais où la réalité et le rêve, d'où la nuit peut-être, se mêlent, se mélangent, se rencontrent et ne forment plus qu'une réalité, mais qui est autre. Dès la première phrase de cette histoire, donc, il cessa de dessiner après une journée à séparer les ombres et les lumières. Et pour moi, c'est peut-être même la définition de la peinture, séparer les ombres et les lumières, et c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans, tout au long de ce travail plastique. Et il cessa de dessiner lorsqu'il s'aperçut que la clarté du jour avait disparu de la surface de la feuille et se confondait à présent à l'obscurité du dessin. Et donc, la clarté du jour, c'est pour rappeler le réel, qui vient du dehors et qui vient se poser sur la surface de la feuille. Et la surface de la feuille, c'est le dessin, donc la subjectivité, le rêve. Comme si, dès le départ, j'avais inconsciemment, bien sûr, posé un préalable à ce qui allait en découler à la fois dans le texte et à la fois dans toutes les images. Où les images sont à la fois très réalistes, très photographiques, parce que j'aime bien cette notion et qui est née en moi dans la petite enfance, quand j'ai commencé à dessiner à l'âge de 7 ans, et que mon identité de dessinateur a commencé à ce moment-là, et qu'on me reconnaissait en tant que tel, j'avais très vite appris à estomper au crayon des visages que je faisais. J'aimais beaucoup cette idée de, non pas de recopier la réalité, mais comme si le dessin devenait lui-même la réalité, peut-être plus réel que la réalité elle-même. J'aime cette idée de faire semblant que c'est vrai. Comme si cette histoire, en la traitant de cette manière-là, techniquement, faire croire que c'est vrai, qu'elle a été réellement vécue.
Pourquoi cet homme est-il si solitaire ?
Cet homme est solitaire parce qu'on comprend qu'il est dessinateur. Toute la difficulté pour lui, et pour moi aussi dans la vie, c'est comment faire avec le réel, puisque le dessin nous sépare des autres. La difficulté, c'est de trouver un équilibre entre la réalité sociale et la réalité vécue solitairement dans un travail personnel. Comment trouver un équilibre entre les deux ?
C'est-à-dire, comment raconter le monde quand soi-même on est isolé de ce monde ?
Oui, et c'est ça le paradoxe. Pour le raconter, il faut s'isoler. Il faut avoir une certaine distance. Certains, on le voit dans l'art brut, dans l'art singulier, ils prennent une telle distance qu'ils ne reviennent plus dans ce monde de réel et social.
Le personnage de votre bande dessinée, même si c'est la nuit, il revient d'où ? On le voit, il ne peut plus parler à la femme qui est dans son appartement. C'est-à-dire toute tentative d'engager une discussion s'avère infructueuse, c'est le moins que l'on puisse dire. Il quitte cet appartement. Il écoute une musique qui sort de chez la voisine. C'est un fado. On est dans une note triste. Le noir et blanc, comme si c'était une suite de tableaux, vont nous emmener avec lui à traverser une ville balayée par le froid, balayée par la pluie. Une ville où des événements extraordinaires vont se passer sans troubler sa déambulation. Et puis, pour arriver tout ça dans un quartier de nuit, où se retrouvent dans des bouges, dans des cabarets, des travailleurs émigrés, mais même quand il porte son regard sur les travailleurs émigrés, on sent que s'il a plein de choses à partager avec eux, il n'est pas de leur monde non plus.
Non, il est ailleurs. Il n'est que témoin de ce qu'il voit. Étranger à la vie, étranger à tout ça. Mais c'est un peu un raccourci de dire que c'est du noir et blanc. C'est-à-dire que le blanc, c'est celui de la feuille, que je ne choisis pas. Et le noir, c'est celui que j'achète. Et moi, ce que j'invente, c'est ce qu'il y a entre les deux. Et métaphoriquement, on peut dire que le blanc, c'est la naissance, le noir, c'est la mort, et entre les deux, c'est la vie. C'est ce que j'essaye de, avec ces deux couleurs, d'y mettre de la vie et dans ces images-là.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Même si c'est la nuit, le titre de la dernière bande dessinée de Kamel Khelif. Ça faisait longtemps d'ailleurs que vous n'aviez pas sorti de bande dessinée. Hein. Vous avez eu toute une période où vous étiez plus dans le dessin, dans la peinture, dans le monde des galeries. Vous étiez d'ailleurs plus connu à l'étranger qu'en France, qu'à Marseille même. Mais revenons à l'histoire de « Même si c'est la nuit ». Les états d'âme de cet homme qui déambule, qui quitte l'immeuble où il vit dans un quartier plutôt délabré du centre de Marseille, où il écoute du fado, où il va arriver dans un bouge où il y a des filles, des travailleurs émigrés, mais aussi des flics, le monde de la nuit, où là on écoute le fado de l'autre côté de la... enfin le fado algérien, c'est-à-dire le shabi, où vous rendez hommage à un grand chanteur. Ces musiques-là évoquent plutôt la nostalgie. Il a la nostalgie de quoi, cet homme ?
Je ne sais pas s'il est nostalgique, mais je dirais qu'il est plutôt mélancolique. Et il est mélancolique parce que c'est sans doute sa position même de dessinateur qui l'amène à cette mélancolie, à être étranger aux autres et à ce monde. Et c'est cette position... qui pour moi définit même l'artiste, cette distance qui amène à la mélancolie. Parce que l'artiste dans notre société nous fascine, il enfreint les tabous, sa liberté, mais dans cette provocation, dans cette position, il ne peut être que seul. Et la figure qui, dans la peinture, la plus représentative, c'est Van Gogh, bien sûr. Quand on dit il faut souffrir pour peindre, il faut souffrir, je ne crois pas du tout. C'est pas la souffrance, elle vient de cette position sociale, pas de ce qu'on a dans le ventre ou dans la tête, du tout. Non, ça, j'y crois pas du tout.
Kamel Khelif, il y a aussi une belle description de ces bars de nuit pour travailleurs immigrés à Marseille.
Alors, le bar dans lequel il se retrouve, je l'ai intitulé « Le bar du hasard » et le patron du bar s'appelle Lazare. Puisque d'un côté d'une rive, le hasard veut dire l'aléatoire et de l'autre côté, la chance. Est-ce que c'est la chance ou l'aléatoire qui, dans ce bar, va l'amener à rencontrer une femme solitaire qui va lui décrire ses autres femmes qui fut un moment donné des femmes qui lui ressemblaient. Et on va entendre une première chanson chantée par une chanteuse de fado qui n'a rien à voir avec le groupe de Sherbi, et puis une seconde chanson chantée par Amar Zahi, qui était un immense artiste, un immense chanteur, qui a beaucoup innové dans cette musique-là. La musique Sherbi, c'est la musique d'Alger et aux alentours d'Alger.
Oui, c'est un peu le rebetiko d'Alger, hein, c'est comme le fado au Portugal. Mais c'est très étrange parce que vous rendez hommage à Amar Zahi, ce grand chanteur Sherbi qui avait la particularité de n'avoir jamais quitté sa ville et de refuser de quitter sa ville. Il n'avait même pas de passeport, il n'a jamais eu de passeport. Et là, vous le transposez à Marseille, dans un bouge marseillais fréquenté par des marlous de la ville et surtout par beaucoup de retraités parmi les travailleurs immigrés algériens.
Mais c'est ce que permet l'art justement et que ne permet pas la réalité. Je peux le déplacer et le mettre dans un bourg et dans un cabaret clandestin. Cabaret clandestin qui renvoie aussi à quelque chose de Marseille où tout est en dessous, refoulé. On le voit et on le vit dans une ville aussi vieille, il n'y a pas de monuments, il n'y a pas beaucoup de traces du passé. Beaucoup de choses culturelles, et en particulier qui concernent l'immigration, sont toujours en dessous, clandestins. Mais aussi, quand on regarde le lieu de ce cabaret, c'est aussi un clin d'œil à tout ce cinéma que j'ai beaucoup aimé des années 20, 30, M. le Maudit, le Docteur Mabuse. Et j'ai pensé aussi, sans doute, durant la guerre d'Algérie, à ces réunions clandestines du FLN. C'est un peu un clin d'œil à tout ce monde-là obscur, souterrain, un peu aussi comme les aveugles qui tirent les ficelles dans les romans d'Ernesto Sabato, qui contrôlent la ville. C'est tout ça qui est sous-entendu.
L'autre paradoxe de votre bande dessinée, Kamel Khelif, c'est une déambulation. Donc on a l'impression qu'on va prendre le large. Hein. Et pas du tout. Toutes les personnes qu'on rencontre ont l'impression d'être enchaînées à cette ville ou à leur destin. Oui, leur destin est lié intimement à cette ville. Et parmi ces personnages, par exemple, quand on est dans ce bar fréquenté et par les policiers, et par les filles de joie, et par les travailleurs émigrés, il y a ce personnage de « je m'en vais demain ». C'est son nom, ça ?
Je veux partir.
Oui, je veux partir. Il s'appelle « Je veux partir oui. ». C'est quelqu'un qui rêve de repartir dans son pays d'origine, mais qui est tous les soirs assis à la même place.
Oui, c'est à partir de quelqu'un que j'ai rencontré dans ce lieu même qui me sert de cantine, où je me retrouve assez souvent, soit seul, soit avec des amis. Et c'était quelqu'un qui s'est retrouvé dans cette ville avec la promesse d'une rencontre avec une fille de l'autre côté de la rive. Et puis cette fille, quand il a rejoint ici, elle a foutu le camp. Je ne sais pas les raisons. Mais c'est aussi ce passeport bourré de documents et de photos. C'est une photo qui me montrait où il était dans un autre état de santé, où il se portait beaucoup mieux avant cette séparation. Et c'est aussi à ce moment-là ma propre angoisse avec mon passeport, puisque j'ai toujours une carte de séjour, et la condition pour renouveler la carte de séjour, c'est d'avoir un passeport en cours de validité. Oui, c'était une situation assez angoissante, qui a été réglée.
Et je ne comprends pas, Kamel Khelif, selon votre bio officielle, vous êtes né en 1959 à Alger, mais vous êtes arrivé en France en 1964. Ça fait 55 ans. Et vous n'avez jamais demandé la nationalité française ?
Non, je ne l'ai jamais demandé. Par fainéantise, j'aime pas la paperasse. J'aime bien rester avec ce statut-là. C'est pas pour une question d'identité. Ça, j'ai réglé ça à 20 ans. Je sais qui je suis.
C'est-à-dire, vous vous dites, je suis Marseillais, je suis Français, je suis Algérien, je suis migré. C'est quoi votre identité, tiens, Kamel Khelif ?
Ben, je suis dessinateur. Quelqu'un qui vit ici est pris, comme tout un chacun, avec l'énigme de soi. Sur les papiers, je suis Algérien. Mais, bien sûr, ça me suffit pas. Mon identité de dessinateur est beaucoup plus forte que ces identités sur papier. Et puis, quelque part, ça nourrit aussi ma marginalité. Peut-être que j'ai pas envie de ressembler aux autres. J'ai passé ma vie à faire tout le contraire des autres. Et c'est peut-être le dessin qui m'a obligé à cela. Dans mes goûts, dans mes idées, dans la vie quotidienne, dans mes vêtements, dans le dessin. Dans la peinture, est-ce que je fais du dessin ? Est-ce que c'est de la peinture ? Toujours ce besoin de, malgré moi, toujours d'aller ailleurs et jamais de rester dans un enfermement, qu'il soit artistique, qu'il soit social, idéologique, ethnique, essayer d'être toujours ailleurs.
Elle est d'une beauté incroyable, votre bande dessinée, parce que on se met à toucher les pages pour se dire, ben, qu'est-ce qu'il a utilisé ? Est-ce que c'est des pinceaux ? Est-ce que c'est de la peinture ? Est-ce que c'est des calques ? Ce noir, qui peut être profondément noir, reste néanmoins très beau, parce que vous restituez très bien les rues, les bâtiments, les monuments de Marseille, l'atmosphère aussi dans les bars clandestins et les cabarets ouverts très tard la nuit. Et pourtant, ça faisait, comme je vous le disais, très longtemps que vous n'aviez pas fait de bande dessinée, comme si le dessin, la peinture, s'était imposé d'une manière définitive. Qu'est-ce qui vous a fait revenir à la bande dessinée avec cet album, même si c'est la nuit ?
Moi, ça faisait 2 ans que je travaillais comme ça sur des dessins libres, que j'exposais, et en même temps qui me permettent de mener des recherches graphiques. Qu'ensuite, je reprends pour les intégrer dans le travail d'un livre. ce que ne permet pas le travail d'un livre. Le travail d'un livre, d'une bande dessinée, où on a l'impression de rentrer dans un tunnel, mais il faut qu'il y ait une homogénéité de la première page jusqu'à la dernière. Et puis, improviser tous les jours. L'inspiration, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. J'aime au contraire travailler en improvisation, comme d'autres travaillent en musique, comme ça, c'est-à-dire établir un dialogue avec la feuille. Quand je pars d'une feuille blanche, la feuille blanche, c'est pas le vide, c'est le trop-plein. Il y a trop de chemin à emprunter. Donc je jette dans un premier temps de la matière, ce qui limite les possibilités, et j'ai quelque chose avec lequel je peux démarrer. Et ce va-et-vient, ce dialogue entre la feuille et moi, où j'arrive à créer une image, où à la fin je ne sais plus ce que moi j'ai inventé et ce que la feuille m'a donné. Et j'aime bien cette démarche-là, qui est beaucoup plus, où j'impose pas une idée.
Ce qui n'est pas le cas pour la bande dessinée.
Et puis alors quand je travaille comme ça, c'est fatigant un peu de repartir tout le temps avec ce hasard. Il y a tout de suite un besoin de faire un livre, de se retrouver dans un tunnel un peu plus ou moins hermétique, dont on ne sait pas ce qu'il y a au bout, bien sûr. Et c'est ce qui est intéressant. Donc, accepter une aventure, là aussi. Une aventure et un voyage, qu'il soit dans un dessin ou dans un livre. Et puis, quand je fais un livre, quand ça dure un an, deux ans, il y a tout de suite ce besoin, à nouveau, de faire des dessins libres. Il y a un va-et-vient sans arrêt comme ça, où je ne m'ennuie pas. C'est peut-être ça qui amène certains dessinateurs de bande dessinée à abandonner l'ennui. Et puis un travail pour l'édition. L'édition, on sait bien, faire des livres d'auteur nourrit pas son homme du tout. Ce livre-là, c'est un luxe que je me suis payé pendant deux ans de faire ce travail-là qui ne me rapportera rien du tout. Pas grand-chose.
Même si c'est la nuit, alors ce 29 mai, vous serez en dialogue avec Mehdi Sharef autour de votre bande dessinée Kamel Khelif. Ce 29 mai, ça sera à 16h au magasin, c'est à Marseille, c'est l'avenue de la République. Et puis à partir du 1er juin, et pour trois mois, une exposition à l'abbaye d'Aubrive, c'est dans la Haute-Marne. Vous allez exposer toutes les planches de cette bande dessinée. Et alors, justement, quel est votre statut aujourd'hui? Parce que, en tant que dessinateur, vous avez été repéré, reconnu par des galeries de Londres, par des revues américaines. En France, vous restez un auteur très underground, comme on dit. Comment vous vivez cela?
Je le vis très bien. J'en souffre pas. L'important pour moi, c'est de faire continuer cette roue en moi qui a commencé dès l'âge de 7 ans et qui par moments a grincé. La vie m'a appelé à faire autre chose, à travailler, à m'éloigner un peu de ça, mais depuis cet âge-là, je me suis toujours senti dessinateur, même quand je ne dessinais pas. Pour le reste, si ça vient du dehors, tant mieux, si ça vient pas, j'ai assez de force, je crois, depuis à peu près maintenant, depuis 90, que j'ai décidé de ne faire que ça, et c'est une chance inouïe.
Kamel Khelif, et même si c'est la nuit, c'est édité chez Otium. Et si vous voulez avoir une idée du trait de Kamel Khelif, si vous ne connaissez pas son travail, quelques cases, quelques images sont disponibles à la page du Réveil Culturel sur franceculture.fr. Émission préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard, avec ce matin à la technique Jean-Michel Bernot.
Vous êtes sur France Culture, dans un instant les informations de 6h30, à suivre le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente la Bibliothèque parlante. Le festival de la BNF donne la parole aux livres à travers les voix de Charles Berling, Sandrine Bonner, Julie Depardieu, Nathalie Dessay ou Denis Podalydès. De Victor Hugo à Michaud, Berlioz à Marie Curie, Brel ou Barbara, venez écouter de grands textes choisis dans les collections de la BNF. Et ce soir, dès 19h, en ouverture du festival, France Culture et la BNF vous proposent une soirée hommage à Notre-Dame de Paris. le Festival de la BNF, les 24, 25 et 26 mai, à la BNF François Mitterrand à Paris, en partenariat avec France Télévisions. Plus d'infos, franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture. Tout de suite, le journal de 6h30 avec Anne Fauquemberg.
Bonjour. Deux administrateurs judiciaires viennent d'être nommés. Le groupe Rally, maison mère de Casino, vient d'être placé en procédure de sauvegarde. Objectif, stopper la spirale de la spéculation. Les précisions d'Isabelle Raymond au début de ce journal. Une seconde grève internationale pour le climat organisée aujourd'hui partout dans le monde. En France, plus de 85 associations et syndicats appellent à renforcer le mouvement des jeunes, va nous dire Solène Cresson. Les élections européennes, la République tchèque et l'Irlande aux urnes ce vendredi, alors que les Pays-Bas semblent déjouer le pronostic de la montée du populisme. Nous entendrons également Jean-Christophe Lagarde de l'UDI et François Asselineau de l'UPR. Et puis un petit rappel avec Bertrand Galichet du fonctionnement réel du Parlement européen à la fin de ce journal. Menacée par les spéculateurs sur les marchés boursiers, Rally, la maison mère du géant de la grande distribution Casino, se tourne vers le tribunal de commerce de Paris. Le groupe est désormais placé en procédure de sauvegarde, ce qui va lui permettre, Isabelle Raymond, de réaménager une dette colossale. Deux administrateurs judiciaires viennent d'ailleurs d'être nommés par la justice.
La dette de Rally, maison mère de Casino, s'élève aujourd'hui à près de 3 milliards d'euros. Le groupe a donc décidé de se placer sous la protection de la justice afin de négocier avec ses créanciers, les banques notamment, le rééchelonnement de cette dette sur plusieurs années. Avec un espoir que le cours de bourse de Rally et de Casino cesse de dégringoler, l'objectif est donc de gagner du temps et de créer un climat plus serein. Chez Casino, on l'assure, cette procédure ne fragilise en rien le groupe de grande distribution aux multiples enseignes, de Monoprix à Natura en passant par ses Discount et Franprix. Avec cette procédure judiciaire qui s'ouvre pour l'instant sur 6 mois, peut-être plus, il n'est d'ailleurs pas question de chercher de l'argent frais en vendant des enseignes, mais simplement de rembourser la dette sur une plus longue période.
Les précisions d'Isabelle Raymond. Le gouvernement tente de rassurer les salariés d'Ascoval dans le Nord. L'exécutif affirme que le repreneur britannique va tenir ses engagements malgré son placement en redressement judiciaire. À l'issue d'une réunion avec les principaux acteurs locaux, le ministre de l'économie a promis que les nouveaux dirigeants iront rencontrer les 270 salariés de Saint-Solve dans le Nord, donc la semaine prochaine. Bruno Le Maire, qui a par ailleurs choqué l'intersyndicale de General Electric à Belfort, un communiqué est sorti hier soir. Les syndicats fustigent, je cite, l'ignorance du ministre de l'économie qui a affirmé dans une interview qu'il n'y avait pas de débouché pour les turbines à gaz produites dans le site de Belfort, site menacé d'un vaste plan social. Selon la CFE-CGC, la CGT et Sud, le marché des turbines représente au contraire 75% du marché mondial. Une nouvelle grève pour le climat est organisée aujourd'hui dans le monde entier. Les jeunes sont appelés à ne pas aller en cours et à descendre dans la rue pour interpeller leur gouvernement sur le réchauffement climatique. Près de 90 villes en France sont mobilisées. À Paris, le défilé partira à 13h, place de l'Opéra. 85 associations et syndicats appellent à se mobiliser pour soutenir les jeunes. Solène Cresson.
On ne peut pas dire que ça sert à rien, assurent les associations qui appellent à se mobiliser pour la grève du climat. Ne pas aller en cours, décrocher symboliquement le portrait du président dans les mairies ou bloquer des entreprises. Si ces actions ne semblent pas faire réagir le gouvernement comme il l'aimerait, les défenseurs de l'environnement voient le verre à moitié plein, comme Pauline Boyer, la porte-parole d'ANV COP21.
Il y a 3 ans, on organisait une action devant la tour de Total à la Défense avec 100 personnes. C'était notre première action de masse. Et là, 3 ans après, on est à 2000 personnes qui bloquent 4 tours à la Défense. De plus en plus de gens prennent conscience et passent à l'action.
Autre preuve que les lignes bougent, aucun grand parti n'a pu occulter la question écologique de son programme pour les élections européennes. C'est déjà une première étape de franchie pour Jean-François Julliard, directeur de Greenpeace France.
Aujourd'hui, c'est devenu un vrai sujet politique, ce qui n'était pas le cas il y a encore peut-être 3 ou 4 ans. Donc c'est pas encore suffisant parce qu'aujourd'hui, les émissions de gaz à effet de serre continuent à augmenter à l'échelle de la planète et qu'on est loin du compte. Mais on a obtenu ça. C'est une une première étape et maintenant il faut poursuivre.
Poursuivre passe par ces mobilisations d'un genre nouveau, mais aussi par l'obligation de trouver d'autres pistes d'action, estime Jean-François Julliard.
Personne n'imaginait il y a quelques années qu'on allait un jour porter plainte, être en situation de porter plainte contre l'État pour son inaction climatique. Donc je pense que ce qui n'était pas imaginable il y a quelques années est en train d'arriver. Donc il y a certainement des choses qu'on n'imagine pas aujourd'hui qui vont arriver dans les années à venir. Et pour moi, ce mouvement climat, il est encore émergent parce qu'il y a encore tellement à faire. J'y vois plutôt un avenir certain.
Et après l'été, une prochaine grève pour le climat est déjà prévue. Ce sera le 27 septembre.
Les organisateurs, notamment le mouvement Youth for Climate, espèrent faire autant que le 15 mars dernier pour la première grève. Il y avait eu 200 000 personnes dans les rues en France et plus d'un million à travers le monde. L'écologie, il en a été question hier soir à l'occasion du dernier débat avant le vote pour les européennes. C'était sur BFM TV entre 11 responsables de liste, près de 3 heures d'échange où l'économie a eu également sa place à l'initiative notamment du candidat de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, qui a cherché à se distinguer de la liste de La République En Marche.
C'est parfaitement possible de lutter contre la concurrence déloyale du travailleur détaché. C'est pas la peine d'attendre du gouvernement français ou autre chose. Moi, je veux une commission qui lutte contre. L'article 116 lui permet, des traités européens, lui permet de dire, quand il y a concurrence déloyale, j'interviens et je règle le problème. Je ne voterai pas pour un président de commission ou une commission qui ne s'engagerait pas à ça. Deuxième point, on peut pas avoir le même marché, la même monnaie, et ne pas rapprocher fiscalement et socialement. Et je veux que ça se fasse en même temps et au même rythme pour les entreprises et les salariés, sinon on fera les entreprises sans les salariés. Troisième point, j'ai en revanche un désaccord avec Madame Loiseau et avec quelques autres. Cette histoire, qui est une fausse histoire du SMIC européen. Moi, je veux dire que ça n'existera pas. C'est devenu un totem dans cette campagne. Et ça n'existera pas pour une raison simple. Il y a des pays qui n'ont pas de SMIC européen et qui s'en portent très bien.
Jean-Christophe Lagarde, des propos recueillis par Éric Chavroux. À deux jours du scrutin, le Rassemblement national est toujours donné en tête des intentions de vote dans les sondages, juste devant La République En Marche. Cette élection à 34 listes, un record, est devenue au fil du temps un duel entre RN et LAREM, entre finalement plus d'Europe ou moins d'Europe. Un duel que rejette François Asselineau pour la tête de liste UPR, partisane du Frexit. Les deux partis se ressemblent aujourd'hui bien plus qu'il n'y paraît.
Maintenant, le Rassemblement national est parfaitement clair, il refuse de sortir de l'Union européenne et de l'euro, comme en fait tous les autres partis politiques, il prétend changer l'Europe, comme d'ailleurs M. Macron prétend lui aussi changer l'Europe. Donc vous avez tous les partis politiques français qui tirent tous la même conclusion, l'Europe ne marche pas, marche mal, mais au lieu d'en tirer la conséquence logique qui consisterait à dire mais quelque chose qui ne marche pas depuis 60 ans, c'est qu'il y a un vice de construction, un vice de conception de départ. Il faut donc sortir de ça et nouer des relations de coopération internationale qui ne soient pas définies par une appartenance géographique continentale. Mais au lieu de tirer cette conséquence, tous les autres partis politiques disent « on va changer l'Europe ». Donc en fait, c'est simplement une nuance maintenant qui existe entre En Marche et le Rassemblement national. Nous estimons qu'il faut regarder sereinement, sérieusement, calmement, eh bien, la sortie de l'Union européenne.
Des propos recueillis par Rosalie Lafarge. Les élections européennes, elles ont déjà commencé hier en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas. Les Pays-Bas, où les estimations sorties des urnes donnent les travaillistes en tête contre toute attente. Les sociaux-démocrates, emmenés par le vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans, pourraient remporter 5 des 26 sièges attribués à la couronne. Ils doubleraient leur score par rapport à 2014 devant le parti europhobe et anti-immigré de Thierry Baudet. Cet événement néerlandais, s'il se confirme, ce qui laisse quand même peu de doutes à ce stade, eh bien, il interroge encore un peu plus sur la majorité qui sortira des urnes dimanche. Mais quoi qu'il en soit, Bertrand Galichet, le fonctionnement réel du Parlement européen dépasse largement les clivages politiques et oblige les élus au pragmatisme.
Si le Parlement européen ne ressemble à aucun autre, c'est surtout en raison de son mode de fonctionnement, un art du compromis qui transcende les appartenances politiques pour bâtir au cas par cas des majorités d'idées et de circonstances. Réunis alternativement à Bruxelles et à Strasbourg, les députés de toute nationalité sont obligés de s'entendre s'ils veulent peser sur la fabrication du droit européen, conjointement avec le Conseil européen, la réunion des chefs d'État et de gouvernement. Face à la Commission, l'exécutif des 28, qui a l'initiative de la législation. Le Parlement a donc développé un système de coalition éphémère et pragmatique, un procédé qui suppose une organisation du travail rigoureuse, des travaux en groupe jusqu'aux séances plénières. Les députés européens disposent de moyens conséquents, notamment pour assurer les traductions, une ambiance multiculturelle qui favorise le dialogue, loin de la pratique politique de beaucoup d'élus français qui devront passer par une longue phase d'apprentissage avant de maîtriser leur nouvel univers.
Les précisions de Bertrand Galichet. En Inde, le Premier ministre Narendra Modi a remporté hier une victoire écrasante à l'occasion des législatives. Le BJP, le Parti du Peuple Indien, Parti Nationaliste Hindou, obtient la majorité absolue à la Chambre basse du Parlement qui réunit 543 députés élus pour 5 ans. Et puis une semaine après la légalisation par le Parlement, Taïwan a enregistré les premiers mariages homosexuels de l'Asie cette nuit dans une ambiance festive et pleine d'émotions. Après 3 décennies de lutte pour l'égalité des droits sur cette île. La météo de ce vendredi 24 mai, un ciel lumineux sur une grande moitié est, mais aussi en Normandie et dans le nord, temps couvert avec de la pluie au sud-ouest. Les températures ce matin, 11 à Château-Chinon, 14 à Saint-Brieuc, 17 à Angoulême, 18 à Douai, 20 à Colmar, 21 à Saint-Étienne et au Sainte-Marie-de-la-Mer. 6h40 sur France Culture. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Anne Fauquemberg.
Le journal des idées. On trouve notre époque vulgaire et il est vrai que même certains dirigeants politiques ont adopté un ton vulgaire comme signe de ralliement. Mais la vulgarité est-elle si moderne, Jacques ?
C'est Madame de Staël qui invente le mot en 1802, trouvant qu'il n'existait pas encore assez de termes pour proscrire à jamais toutes les formes qui supposent peu d'élégance dans les images et peu de délicatesse dans l'expression, écrit-elle dans De la littérature. Mais pour Bertrand Buffon, qui consacre au sujet un ouvrage très documenté, publié chez Gallimard sous le titre « Vulgarité et modernité », son retour en force est concomitant du triomphe de l'idéologie néolibérale qui pousse à leur dernière extrémité certains traits de la modernité, individualisme, utilitarisme, consumérisme, et soumet un à un les différents pans de la vie sociale à la logique du marché. Le néologisme vulgaire vient du latin vulgus, qui signifie le commun des hommes, la foule. Dans ses premiers usages, il n'avait pas forcément de connotation péjorative. Ainsi, Barbet d'Orvilly qualifie la gaieté de qualité vulgaire et toujours bienvenue en France, mais aussi étonnant que ça puisse nous paraître aujourd'hui, le même jugé comme Brunetière, Victor Hugo, vulgaire, estimant qu'il peint gros en toute chose et les sentiments fins lui sont inconnus. Quant à Brunetière, justement, il est encore plus explicite, affirmant qu'il y a toujours eu dans toutes ses œuvres un fond non seulement de banalité, mais de vulgarité. Même anathème pour Zola, auquel il reproche la vulgarité délibérée des sujets. La critique n'étant pas une science exacte, celui qu'on considère de nos jours comme l'anti-modèle de la critique littéraire en rajoutait une couche au début du XXe siècle encore. Gustave Lanson jugeait Victor Hugo peuple de par une certaine grossièreté de tempérament, par l'épaisse jovialité et par la colère brutale, et du fait d'une nature vulgaire est forte où l'égoïsme intempérant domine, du taux de testostérone appliqué au jugement esthétique. Mais le mot est lâché, égoïsme, il consonne avec individualisme, matérialisme, nivellement par le bas et renvoie du coup à notre société actuelle. Et pour Bertrand Buffon, l'étalage indiscret de soi est un trait typique de la vulgarité contemporaine, l'insignifiance de la personne érigée en modèle alternatif. Selon lui, l'idée de norme a changé de sens, désignant non plus ce qui est excellent et donc rare, mais ce qui est le plus fréquent. Les modèles classiques de moralité, le héros, le sage, le saint, sont remisés au cabinet de curiosité et la vulgarité se porte haut sur les plateaux de télévision comme un signe d'émancipation affiché à l'égard des conventions. C'est qu'il s'est passé quelque chose avant l'ère consumériste et dont celle-ci a su profiter. Le terrain a été en quelque sorte préparé par une transvaluation des valeurs amorcée déjà par nos moralistes du grand siècle, les faux-semblants d'une morale conventionnelle, hypocrite et superficielle, guidée par l'intérêt personnel, sont dénoncés par La Rochefoucauld ou La Bruyère. Je cite les caractères. Le peuple n'a guère d'esprit et les grands n'ont point d'âme. Celui-là a un bon fond et n'a point de dehors. Ceux-ci n'ont que des dehors et qu'une simple superficie. Faut-il opter ? Je ne balance pas. Je veux être peuple. Renan enfonce le clou. Bien agir parce qu'on en peut retirer quelque avantage. Quelle vulgarité ! Et Nietzsche, je déteste cette vulgarité qui dit « ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'ils te fassent », qui veut fonder tous les rapports humains sur une réciprocité des services rendus en sorte que chaque action apparaît comme une espèce de paiement en retour d'un bienfait. La dernière livraison de la revue Esquisse est consacrée au thème de la crudité. Langage, publicité, pornographie, un monde de tentations sans goût nous submerge. Sur le mode retournement du stigmate, musique et paroles du rap exploitent le filon. Mathias Vichra pose la question « Pourquoi la crudité du rap serait-elle seulement vulgaire ?» Les rappeurs semblent suivre à la lettre le conseil donné par John Fante aux écrivains, vivre leur vie dans toute sa crudité, la prendre à bras-le-corps, l'attaquer à point nu. Si le rap a souvent le sexe comme objet et la femme comme sujet, et vice-versa, il est assez fréquent que le langage fleuri, matiné d'une langue verte et de néologisme, se trouve l'État et les institutions en général comme cible de choix. La crudité et la vulgarité seraient à la hauteur des injustices subies, des violences et aussi d'une forme de désillusion, résume l'auteur. La haine, c'est ce qui rend nos propos vulgaires, chante le groupe Sniper. Parfois, il faut parler cru pour être cru, tente l'ancien énarque, auteur à l'Harmattan, d'une analyse textuelle du rap français. J'ai traité les phrases comme de vraies dames, tiré les plus belles pour les mettre en vitrine, comme à Amsterdam, ça c'est Ayam. La poétique de l'obscène, rappelle-t-il, n'est pas l'apanage des hommes. Les femmes rappeuses ne sont pas en reste, mais là, alors qu'il est, j'arrête les citations. Vous écoutez France Culture, il est 6h46. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux aujourd'hui, le conflit syrien.
Oui, c'est ça, avec de nouveaux des soupçons d'utilisation d'armes chimiques par le régime syrien. Dernier développement depuis une semaine dans la province d'Idlib, au nord-ouest du pays. Ce dernier réduit et rebelle djihadiste censé être épargné par un accord entre la Turquie et la Russie, mais cible d'une nouvelle offensive de Damas depuis 2 mois. Bonjour Basma Konmani.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être au téléphone. Vous êtes la directrice de l'Arab Initiative Reform et membre de l'opposition démocratique syrienne. Alors dans quelques jours, le 28, cela fera 2 mois de bombardement dans cette province d'Idlib par le régime syrien. L'objectif affiché, c'est de reprendre un certain nombre de localités intermédiaires aux groupes armés. Déjà 600 frappes aériennes, rien que pour la journée d'hier, selon l'OSDH. Si Idlib était une zone de désescalade, ce n'est plus rien de tout cela là, en ce moment.
C'est malheureusement une offensive qui est redoutée et attendue depuis plus d'un an maintenant. Mais cet accord de désescalade entre la Russie, la Turquie et l'Iran, mais la Russie et la Turquie étant les deux pays concernés surtout, cet accord qui devait durer 6 mois, les 6 mois sont écoulés, n'a donné aucun résultat du point de vue de la Russie en particulier. Autrement dit, cet accord devait conduire la Turquie, qui s'est engagée à cela, à combattre les djihadistes qui sont dans cette région. Or, dans cette région, nous avons probablement plus de 3 millions d'habitants aujourd'hui amassés parce qu'ils ont été forcés par le régime syrien à quitter les différentes régions de Syrie, de Damas, du Sud, du Centre, de toutes les régions de Syrie. Et aujourd'hui, on retrouve une concentration de Syriens de toutes les régions dans Idlib.
Oui,
c'est une région très hautement peuplée, très fortement peuplée, et parmi eux se trouvent des djihadistes. Voilà l'enjeu militaire qui est d'une importance évidemment qui est très complexe, mais évidemment la solution n'est pas de tirer dans le tas, au milieu de la population civile comme il se produit en ce moment.
Oui, c'est ça. On va revenir sur les responsabilités de rupture, si on peut dire, de l'accord. Donc il y aurait 50 000 combattants de Hayat Tahrir al-Sham, notamment ce groupe qui était censé être contrôlé d'une certaine manière par la Turquie. Juste un mot des réfugiés. L'ONU parle de 200 000 environ, une grande partie qui sont massés à la frontière avec la Turquie. Ce serait 700 000 selon les officiels d'Idlib. Est-ce que c'est confirmé ces chiffres ?
Absolument, ces chiffres sont très élevés et tout à fait prévus d'ailleurs, parce que il y a aujourd'hui probablement plus de 350 000 personnes qui ont été déplacées. Vous savez, les gens se déplacent le moins possible, c'est-à-dire restent le plus près possible du lieu d'habitation, mais il y a bien ces déplacements massifs. Tout le monde s'y attendait. Et je pense que l'enjeu civil, l'enjeu humanitaire est tellement d'une échelle tellement élevée que honnêtement, je ne vois pas comment cette région peut être comment le conflit peut être réglé, la situation peut être réglée militairement à Idlib. Voilà tout l'enjeu aujourd'hui, c'est que on ne parvient pas à un accord politique qui permette réellement de traiter la question. Il faut à la fois un plan militaire, très complexe, mais il existe. Il faut savoir que beaucoup de Syriens ont travaillé à ce plan. Il faut savoir que la population elle-même veut se débarrasser des djihadistes. Elle est déjà sortie plusieurs fois depuis 2 ans dans les rues de manière pacifique pour dire sortez de nos villages, de nos villes. Et les djihadistes étaient obligés de sortir dans ces cas-là. Malheureusement, personne ne voit que c'est là la piste qui permettrait d'éviter à la population civile d'être bombardée, car la population civile est loin de protéger ces djihadistes, et ces djihadistes s'en iraient sortiraient des villes et iraient dans des zones moins peuplées si ce plan était mis en œuvre. Pour l'instant, que la Russie veut faire, elle veut nettoyer des zones qui visent surtout ces bases militaires qui sont plus vers la côte syrienne, c'est-à-dire de la côte ouest de la Syrie.
Elle a attaqué la base de Khmeimim, notamment, base aérienne.
Voilà, nous avons la base de Khmeimim, une forte concentration là de présence russe et qui se trouve à la portée des armes, des missiles des djihadistes. L'objectif premier des Russes est celui-là. Les objectifs du régime aussi, c'est de reprendre des points stratégiques très importants qui ouvriraient la voie ensuite à la conquête de l'ensemble de Idlib. Mais je n'ose pas parler du mot conquête, car ce sera évidemment un massacre massif.
Et quitte au passage effectivement à se froisser diplomatiquement, voire plus, avec la Turquie, puisqu'il y a également des postes d'observation, 12 qui avaient été établis par la Turquie, 200 soldats. L'un d'entre eux, au moins, a été bombardé récemment. Qu'est-ce qui s'est passé, encore une fois? Qui a eu la responsabilité de la rupture de l'accord? On comprend bien l'enjeu sécuritaire pour la Russie, mais également en janvier, le groupe HTS, donc dépendant de la Turquie, avait quand même repris le contrôle de toute la zone où je me trompe.
La tension aujourd'hui est évidente. La Russie reproche à la Turquie de ne pas avoir rempli son engagement de démanteler ce qu'on appelle HTS, c'est-à-dire les djihadistes de Nusra, anciennement ou Al-Qaïda si on veut. Cet engagement turc était pris effectivement il y a plus de 6 mois. Mais je crois que, si vous voulez, l'enjeu réel aujourd'hui, bien sûr, les djihadistes sont installés là, mais très honnêtement, je ne vois pas d'opération qui vise à liquider les djihadistes. On voit plutôt des opérations qui visent à cantonner les djihadistes dans cette zone et protéger bien sûr la base militaire, permettre au régime de reconquérir du territoire, et personne ne se préoccupe de liquider définitivement les djihadistes et de les combattre dans cette zone. Oui. Et c'est ce que la population voudrait voir d'ailleurs. Elle voudrait voir les djihadistes combattus et qu'ils partent de leur région. Donc, si vous voulez, cette tension aujourd'hui, elle est due au fait que la Turquie s'était engagée à combattre les djihadistes, mais aujourd'hui, la Russie, voilà le moment où elle ne progresse plus en Syrie, elle n'obtient plus de victoires militaires, elle n'arrive pas à faire valoir ses victoires militaires dans les autres régions pour le transformer en victoire politique, et donc elle continue à appliquer cette même logique qui est la reconquête à un prix conflit humanitaire prohibitif du territoire au profit du régime de Bachar el-Assad.
Et le fait que le chef des HTS, Abu Mohammad al-Jolani, ait appelé vendredi dernier à ouvrir un nouveau front vers Alep au nord, est-ce qu'il faut y voir un message peut-être de la Turquie, une volonté de, disons, étendre la zone d'action du régime et l'affaiblir ?
Non, je ne pense pas qu'on puisse dire que la Turquie manipule les djihadistes pour qu'ils mènent des combats contre le régime. Ce n'est pas la priorité de la Turquie. Vous savez, la HTS, al-Jolani, les djihadistes ont des moyens propres. C'est là tout le problème. C'est comme l'État islamique. Ils ont eux-mêmes des moyens maintenant, puisqu'ils se servent des ressources du pays. Et ils n'ont pas besoin d'avoir un pays qui les finance. Donc, ils ont leur propre stratégie. Il y a encore des groupes qui combattent le régime, donc ils sont en première ligne pour combattre le régime par des attaques suicidaires, c'est des combattants féroces, évidemment, ces djihadistes. Donc le régime est mis en difficulté dans ces régions-là. Il est de toute évidence, la Russie est inquiète parce que le régime n'arrive pas à combattre ces combattants-là. Et donc la situation militaire les combats sont très très féroces et c'est ce qui explique sans doute pourquoi le régime a eu recours à des armes chimiques, à du chlore, et le constat est fait aujourd'hui qu'il y a bien eu utilisation d'armes chimiques. Oui. Les victimes on les voit et les témoins sont là.
Bon, et tout dernière chose, autre solution que strictement militaire, il y a eu une percée, comme ça a été appelé, dans les négociations pour un comité constitutionnel le 12 avril. Où est-ce qu'on en est, une date qui est donnée pour une prochaine rencontre ?
Écoutez, voilà plus de 2 ans presque que ce comité constitutionnel doit se former de 150 membres. Nous ne sommes plus très loin d'un accord sur la composition de ce comité constitutionnel et sur son mode de fonctionnement, les mécanismes de prise de décision, etc. Donc l'envoyé spécial des Nations Unies a progressé dans cette direction-là. Il n'est pas exclu que dans quelques semaines, on puisse voir en effet une première réunion de ce comité constitutionnel. Quant à ce qu'il pourra produire, à faire, bien sûr.
Bon, ce sera à suivre, épisode diplomatique et politique. Merci beaucoup pour toutes vos explications et analyses aujourd'hui. Basma Khodmani, directrice de l'Arab Initiative Reform et membre de l'opposition démocratique syrienne.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
À la veille des élections européennes, France Culture et le Théâtre de la Ville s'associent pour explorer l'esprit européen à travers un siècle de littérature. Lecture de Valérie Dashwood, Irène Jacob, Marie Vial, Hugues Kester et Laurent Godet, textes de Stéphane Zweig, Paul Valéry, Albert Camus, Emmanuel Ruben et Éric De Luca. Rendez-vous ce samedi de 15h à 18h au Théâtre de la Ville Espace Cardin à Paris. Programme complet et réservation 01 42 74 22 77 et sur franceculture.fr.
Chez les 18-25 ans, 3 électeurs sur 4 ne votent pas aux élections européennes.
Je refuse de croire que l'Europe n'intéresse pas les jeunes. C'est juste qu'il faut changer la manière dont on en parle.
La journaliste Cécile de Kervas-Doué nous propose de porter la voix des jeunes électeurs.
La rédaction de France Culture part à la rencontre de ces jeunes européens. Leurs idées reçues sur l'Europe, leurs thèmes favoris, leurs habitudes numériques. Les journalistes se glissent dans la peau d'un jeune de 20 ans sur Instagram et vous font découvrir l'Europe à travers leurs yeux, leurs mots et leurs voix. 4 semaines thématiques, emploi, frontières, égalité, environnement.
Une série multimédia interactive sur France Culture, notre compte Instagram et franceculture.fr.
Et à 6h57 sur France Culture, c'est l'heure des matins avec Guillaume Erner.
Absolument, bonjour, Xavier Martinet, Guillaume. Bonjour à toutes et à tous.
Et alors on y croyait, mais si vous voulez savoir, l'Europe, on n'y est pas.
Non mais alors pas du tout, je sais bien qu'on parle de paix européenne pour évoquer ces années de paix depuis 1945, mais voilà, c'est fini. La guerre recommence comme ça, un vendredi matin sans crier gare, et au malheur, à quelques heures du début du scrutin européen en France. Cette guerre, vous le savez peut-être, est la guerre du Parmesan, elle est largement détaillée dans les Échos. Le premier exportateur de parmesan, alias Nuova Castelli, est sur le point d'être acheté par un Français, Lactalis, pour ne pas le nommer. Du coup, les Italiens protestent, peut-être parce qu'ils redoutent que le sort réservé au parmesan italien soit celui de la feta. Vous savez, la feta salakis, personne n'a envie de devenir la feta salakis. Un machin blanc en polystyrène baignant dans de l'eau salée. Le parmesan Lactalis, c'est un peu comme le saucisson Ferrero Rocher, c'est quelque chose qui écœure déjà les Italiens, leur fait peur, peut-être aussi parce qu'ils appréhendent que les producteurs laitiers italiens connaissent le même sort que leurs homologues français, lesquels sont écrémés depuis des années par Lactalis. Mais il y a aussi du patriotisme culinaire dans la réaction italienne, réaction tout de même amusante lorsqu'on sait que Nuova Castelli est détenu depuis 2014 par Charterhouse, un fonds d'investissement aussi soucieux de gastronomie que Volkswagen l'est de qualité de l'air. Du coup, le ministre de l'Agriculture italien, lequel appartient à un gouvernement qui s'est fait élire, comme vous le savez, sur une plateforme de reconquête de la ravioli, explique qu'il faudra le râper tout cru pour qu'il accepte cette vente, déclaration purement verbale. Le ministre est à peu près aussi impuissant à empêcher cette vente qu'à arrêter la cuisson des barillas avec le pouvoir de son esprit. Bien évidemment, tout ceci à l'heure où l'on parle de l'Europe unie, ça l'affiche un peu mal. Il faudrait juste que nous, les Français, ne nous vexions pas trop à l'idée que les Italiens préfèrent laisser le parmesan aux Anglais plutôt que de nous le vendre. À croire qu'ils redoutent la panzanification du parmesan, lequel deviendrait à l'avenir l'équivalent fromager de ce que sont pour nous Gaulois les nouilles trop cuites.
Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Herner.
Une autre Europe est-elle possible? Alors ça, je vous laisserai en décider, mais un autre discours sur l'Europe, lui, est possible. Deux grands esprits vont converser dans les matins pour donner leur vision de l'Europe. Un dessinateur géographe, directeur de la maison, Julien Gracq, Emmanuel Ruben, il publie une odyssée cycliste à la découverte de l'Europe. Il sera dans ce studio à 7h40. Il conversera ensuite avec une grande polististe, Justine Lacroix. Elle est belge et elle sera en duplex depuis Bruxelles.